Bonjour, le secrétaire général va vous présenter l'exercice Trident Juncture. Ensuite, il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonjour. La phase principale de l'exercice Trident Juncture démarrera dès demain en Norvège. Ce sera une journée importante parce que Trident Juncture est l'exercice le plus important organisé par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. C'est un exercice ambitieux et exigeant. Je vais vous donner quelques chiffres relatifs à cet exercice. Une soixantaine de navires, 250 aéronefs, 10 000 véhicules et 50 000 soldats prendront part à l'exercice Trident Juncture. Les 29 alliés vont y participer, ainsi que nos partenaires, la Finlande et la Suède. Ceci permettra de montrer clairement nos capacités, ainsi que notre détermination à travailler ensemble. Ces dernières années, l'environnement sécuritaire en Europe s'est grandement dégradé. L'OTAN a réagi en procédant à l'adaptation la plus conséquente de sa défense collective depuis la fin de la guerre froide. Trident Juncture reflète cette adaptation. Le scénario est fictif, mais les enseignements que nous en tirerons seront réels. Alors, il y aura les forces sud et nord. Ils prendront à tour de rôle le rôle de l'agresseur et les forces de défense. L'exercice permettra de tester notre capacité à rétablir la souveraineté d'un allié, dans le cas présent, la Norvège, après une agression armée. Il permettra de tester notre capacité à fournir des renforts à un pays allié en soldats et en équipement en provenance d'Amérique du Nord et d'Europe. Cela permettra également de tester et de certifier la force de réaction de l'OTAN pour 2019. Ce faisant, nous ferons également passer un message clair à nos pays et à tout adversaire potentiel. L'OTAN ne recherche pas la confrontation, mais nous sommes prêts à défendre tous les alliés contre toute menace. Il s'agit d'un grand exercice et d'une entreprise logistique considérable. Depuis le mois d'août, 180 vols et 60 navires ont permis d'acheminer des équipements et des soldats jusqu'à 27 sites différents en Norvège, y compris des ports, des aéroports et des gares. Des équipements et des soldats sont arrivés d'aussi loin que San Diego, en Californie, à plus de 8000 km à l'ouest, ainsi que d'Izmir, en Turquie, à 3000 km au sud-est. Aujourd'hui, tous nos soldats et tous nos équipements sont en place, du plus gros navire au plus petit drone. Déplacer des soldats et des équipements en franchissant des frontières à une telle échelle nécessite un effort multinational. Je vais vous donner un exemple. Des chars allemands sont arrivés en Norvège à bord d'un navire danois. Lors de leur arrivée, les contrôles ont été effectués par des spécialistes norvégiens. Ils ont été ravitaillés par un camion-citerne belge. Des transporteurs néerlandais et polonais les ont acheminés par voie ferrée et par route jusqu'à leur destination finale. Tout cela a été supervisé par une équipe de contrôle des mouvements américains et organisé par des logisticiens bulgares. Je tiens donc à rendre hommage aux formidables hommes et femmes qui travaillent dur afin d'acheminer tous les soldats et tous les équipements jusqu'en Norvège pour cet exercice Trident Juncture. Leur travail est un magnifique exemple de la coopération entre alliés. C'est l'amiral Fogo qui assurera le commandement de l'ensemble de l'exercice depuis l'USS Mount Whitney. Et une partie importante de Trident Juncture aura lieu en mer. L'Atlantique est vital pour la sécurité de l'Europe et pour le commerce et les communications mondiaux. C'est également un passage crucial pour acheminer des renforts d'Amérique du Nord vers l'Europe. L'OTAN est déterminée à assurer la sécurité de l'Atlantique et Trident Juncture montrent bien la force pérenne du lien transatlantique. Des milliers de soldats américains et canadiens vont y participer. Ils vont déployer leurs ressources les plus performantes, y compris l'USS Harry Truman, à bord duquel je me suis rendue récemment. C'est le premier porte-avions américain à entrer dans les eaux norvégiennes depuis 1987. L'OTAN est une alliance défensive et nous faisons preuve de transparence lorsque nous effectuons des exercices. Tous les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont été invités à envoyer des observateurs à assister à Trident Juncture. Et je me félicite que la Russie ainsi que le Bélarus aient accepté notre invitation. L'OTAN a également présenté l'exercice Trident Juncture à la Russie lors du Conseil OTAN-Russie qui s'est tenu il y a quelques mois. Les alliés respectent le document de Vienne de l'OSCE relatif à la transparence des activités militaires tant dans la lettre que dans l'esprit, alors que la Russie n'a notifié aucun exercice depuis la fin de la guerre froide. Trident Juncture 2018 rassemblera de nombreux soldats et beaucoup d'équipements. Certaines de nos forces vont profiter de cette occasion pour effectuer des exercices supplémentaires. Par exemple, la phase de déploiement de Trident Juncture offre des opportunités d'entraînement dans le cadre de l'exercice Brilliant Jump. La Pologne tiendra son exercice habituel Anaconda juste après Trident Juncture. Des soldats issus de 10 pays alliés vont participer à l'exercice Anaconda qui sera organisé conjointement par la Pologne et par nos alliés baltes. La Finlande va également profiter de la présence de marines alliées dans la région pour l'exercice Northern Coast. Tous ces exercices montrent que nous restons unis face à un monde imprévisible et que nos capacités sont bien réelles et prêtes. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Reuters, premier rang.
Thank you very much, Robin Emmett from Reuters. Merci, Robin Emmett, la Reuters. Monsieur le secrétaire général, hier soir, Washington a dit clairement à la Russie que les États-Unis allaient se retirer du traité FNI. L'OTAN, en juillet, dans sa déclaration du sommet, s'est engagé à respecter ce traité en disant que c'était un signal important. Qu'en pensez-vous? Effectivement, c'est un traité extrêmement important qui marque son temps, mais aucun traité ne pourrait fonctionner si ce traité n'est respecté que par un seul signataire. Voilà pourquoi les alliés ont exprimé leurs soucis quant aux agissements russes, leur déploiement, et nous avons dit clairement que la Russie viole le traité en reconnaissant le développement du SSC-8, leur nouveau missile. Nous menons des consultations sur cette question depuis quelque temps. Cette question a d'ailleurs déjà été posée par le gouvernement Obama. Nous avons abordé le thème en juillet lors du sommet. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait état de positions extrêmement fermes quant au traité et quant au comportement russe. Et lors de la réunion d'octobre des ministres de la Défense, la question a été à l'ordre du jour. Et lors de la conférence de presse, j'ai fait part de mes soucis du fait que la Russie développe ce nouveau missile. Et le secrétaire d'État à la Défense, Mattis, a dit clairement que ceci ne pouvait continuer ainsi, le fait que la Russie travaille sur son nouveau missile. Ana Pisonero de l'agence de presse espagnole sur le traité FNI. Est-ce qu'un allié aurait demandé des consultations selon l'article 4 du traité de Washington? Car si les États-Unis se retire du traité, ceci aura un impact majeur sur la sécurité des alliés et de l'Alliance? Ou est-ce que les États-Unis comptent informer le Conseil de l'Atlantique Nord de leur intention? Et d'ailleurs, l'OTAN, depuis des années, dénonce les violations du traité, et ce, depuis des années. Est-ce que c'est maintenant le point de basculement? Est-ce que c'est maintenant que les États-Unis doivent passer à l'action? Est-ce que tout le monde est d'accord pour passer à l'action? Tous les alliés conviennent de l'importance du traité FNI. Voilà pourquoi nous sommes tellement préoccupés par le comportement de la Russie. Nous sommes tous d'accord pour dire que les États-Unis respectent pleinement leurs obligations selon le traité. Nous disons en même temps, de façon très claire, que l'explication la plus évidente des faits, c'est que la Russie viole le traité. Le problème est donc dû à la Russie. Nous l'avons constaté dans plusieurs domaines et nous avons dit que ceci ne pourrait continuer ainsi. Nous ne pouvons pas avoir un traité qui n'est respecté que par l'un des signataires. Nous avons mené des consultations, nous les menons depuis quelque temps. C'était l'un des thèmes principaux traités par les ministres de la Défense il y a quelques semaines. J'ai abordé ce thème lors de ma visite récente à Washington et puis cette semaine, lors de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord au niveau des ambassadeurs, nous allons parler du traité sur les forces nucléaires intermédiaires ainsi que du comportement de la Russie qui nous préoccupe fort. Nous ne voulons pas de nouvelles guerres froides, de nouvelles courses aux armements. Non, nous pensons qu'il est essentiel de soulever et de traiter cette question et nos préoccupations au vu du nouveau missile russe et dire que la Russie doit respecter le traité FNI de façon transparente et vérifiable. Bien sûr, nous allons évaluer les retombées pour les alliés, pour la sécurité du nouveau modèle de missile russe et des actes de la Russie. Mais je ne dirais pas pour autant qu'il y aura plus de stationnement d'armes nucléaires en Europe en guise de réaction. Terry Schultzwith, PRD. Je vais commencer par une question et ensuite Trident Juncture. Le fait est toujours que vous n'avez pas encore dit exactement ce que sera la réponse et ce qu'est la réponse de l'Alliance quant aux intentions des États-Unis. La Russie a reconnu qu'elle est en violation du traité, mais est-ce que la solution est la meilleure? La solution du retrait? Et en cas de tension nucléaire en croissance, quelle différence le fait que vos chars puissent se déplacer vers les frontières de l'Estonie, quelle est la différence si la Russie peut vous lancer des missiles nucléaires? Si les exercices jusqu'ici n'ont pas été une mesure de dissuasion efficace, que pouvez-vous faire?
Nous n'aurons pas le traité FNI efficace s'il n'est respecté que par une partie. C'est là que le bât blesse. Tous les alliés ont fait valoir clairement qu'ils sont préoccupés par le nouveau missile et que l'explication la plus plausible, c'est que la Russie viole ce traité. Nous avons également fait valoir que les États-Unis respectent le traité. Mais ça n'est pas quelque chose qui va pouvoir durer. Il faut bien le comprendre, parce que le traité ne fonctionne pas s'il n'est respecté que par l'une des parties. Alors, nous allons évaluer les conséquences de tout cela. Il va y avoir une réunion dans le courant de la semaine au niveau des ambassadeurs, et ceci s'inscrit dans le cadre d'un processus de consultation qui dure depuis des mois. Il y a eu notamment tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, le sommet ainsi que les deux dernières, ainsi que la réunion ministérielle. Alors, il y a déjà un défi d'ordre nucléaire parce que la Russie a des armes nucléaires. Donc, même si le traité FNI est un traité important qui abolissait toute une catégorie d'armes, à savoir les armes à portée intermédiaire, la Russie a néanmoins garder des capacités nucléaires stratégiques, mais également des armes à courte portée. Donc, ce dont l'OTAN a besoin, c'est d'une dissuasion crédible afin de pouvoir répondre sur tout le spectre des armes conventionnelles jusqu'aux armes nucléaires. Mais pour ce qui est du déploiement d'un nouveau missile russe, eh bien, c'est là quelque chose qui rend nécessaire pour l'OTAN, l'évaluation des conséquences sur notre sécurité, et c'est très précisément ce que nous sommes en train de faire. Je vous remercie, Irina Sommer, Kyiv Post Newspaper. Monsieur le secrétaire général, s'agissant du comportement de la Russie, hier, le Parlement européen, avec la haute représentante Mogherini, a discuté de la situation en mer d'Azov et notamment de la militarisation de la mer d'Azov qui pourrait potentiellement aboutir à une escalade dans la région. Quelle est l'évaluation de l'OTAN de ce qu'il se passe? Avons-nous raison d'être préoccupés? Oui, nous sommes tout à fait préoccupés par la situation en mer d'Azov. Alors, ce qui s'y passe s'inscrit dans un schéma qui n'est pas nouveau, notamment dans cette région, avec l'annexion illégale de la Crimée, avec le nouveau pont, et puis, bien entendu, avec toutes les activités de la Russie, ces activités de déstabilisation dans la région du Donbass, en Ukraine. Alors, j'ai discuté de la situation en mer d'Azov avec le ministre des Affaires étrangères, Klimkin, lorsqu'il est venu au siège de l'OTAN. Je lui ai fait part de notre soutien plein et entier à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de son pays. Et s'agissant de la liberté de circulation, il est important qu'il y ait des lignes de communication libres en mer d'Azov. Bien sûr, cela est également important pour les alliés de l'OTAN, pour nos navires et pour les relations commerciales entre l'Ukraine et les alliés de l'OTAN. Donc, c'est quelque chose qui a été abordé et ceci souligne bien l'importance pour la Russie de respecter ses obligations internationales, y compris la liberté de circulation des navires en mer d'Azov. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Alors, je pense que le Conseil discute également de la mission Resolute Support en Afghanistan. Pourriez-vous me dire ce qu'il en est? Les États-Unis et les Afghans disent que les négociations de paix nécessitent un dialogue avec les talibans pour ces négociations au Qatar. Alors, vous soutenez le processus de paix avec les Afghans. Alors, maintenant, les choses ont un peu changé. Vous soutenez le processus de paix. Mais après 17 ans de guerre en Afghanistan, avec tous les actes de terrorisme, il reste des problèmes considérables. Plus personne ne reconnaît les talibans comme un groupe terroriste. Donc si les talibans ne sont pas un groupe terroriste, contre qui êtes-vous en lutte? Eh bien, l'OTAN soutient les efforts visant à trouver une solution pacifique au conflit en Afghanistan. Nous faisons cela non pas en participant directement au pourparlers de paix, ça n'est pas là le rôle de l'OTAN, mais nous soutenons au plan politique cet effort. Notre contribution majeure au processus de paix est de faire passer un message clair, d'adresser un message clair aux talibans ainsi qu'à tous les insurgés, comme quoi ils ne pourront pas l'emporter sur le champ de bataille. Nous devons donc former et aider les forces afghanes de sorte qu'elles puissent montrer aux talibans qu'ils ne vont pas l'emporter sur le champ de bataille et qu'ils vont devoir s'asseoir à la table des négociations. Voilà là la manière dont nous apportons notre aide à l'Afghanistan grâce à une mission de formation, d'entraînement. Nous soutenons un processus de paix dont les Afghans sont responsables, mais les contacts entre les États-Unis et les talibans sont importants également et tout est fait pour qu'il y ait une coordination appropriée avec Kaboul. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit un processus de paix mené par les Afghans. Il faut qu'ils en soient responsables et les efforts de coordination des États-Unis avec Kaboul et avec le gouvernement Ghani est important. Alors, c'est quelque chose dont nous discutons lorsque nous nous réunissons. Nous nous réunirons en format Resolute Support prochainement. Ceci sera une occasion pour les États-Unis, pour les Afghans, pour les alliés de l'OTAN autour d'une table de discuter des efforts de paix et du processus de paix. L'OTAN n'a pas de liste d'organisations terroristes. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous apportions un soutien aux forces afghanes, aux forces de sécurité afghanes. Et ce sont elles qui sont responsables d'assurer la sécurité de leur pays. Mais nous leur apportons une aide et nous nous en remettons à eux pour décider de la manière dont ils vont avancer, dont ils vont tendre la main aux talibans afin d'engager un processus politique.
Lauren Cook, Associated Press. Vous êtes sans doute soulagé d'avoir une question sur Trident Juncture. Bon, bien sûr, l'effet dissuasion est important. Cela ressemble à un scénario de conformément à l'article 5. Est-ce bien le cas? La situation géographique de la Norvège, sa proximité à la Russie, nous voyons les exercices de la Russie avec le Bélarus, la Chine l'année dernière. Quelles seraient vos réflexions quant à notre adversaire éventuel visé par cet exercice? Et puis qu'en est-il de la mise en œuvre des capacités cyberoffensives qui ont été offertes à l'OTAN? Merci. Oui, c'est l'exercice le plus important depuis la fin de la guerre froide, ce qui témoigne bien de l'adaptation de l'OTAN. Nous sommes adaptés de façon majeure à partir de la fin de la guerre froide. Le monde a changé. Nous devons suivre ces changements. Nous avons des forces réactives, nous avons une présence accrue et rehaussée à l'est de l'Alliance et nous investissons davantage dans la défense. L'exercice s'inscrit dans ce cadre. Les exercices de l'OTAN sont réguliers et constants, mais c'est la première fois que nous avons un exercice de cette envergure. Depuis longtemps, des milliers, des dizaines de milliers de soldats, des tonnes d'équipements. Et ceci montre que nous sommes capables et nous sommes résolus à défendre et à protéger tous nos alliés. Et le retour d'expérience de Trident Juncture sont utiles pour d'autres pays. Il est important de faire en sorte que les 29 alliés puissent travailler ensemble dans les quatre domaines. Ceci dans un environnement réel et dans un climat qui n'est pas tellement favorable, n'est-ce pas? Ce sera le climat extrême de la Norvège. Le domaine cyber fait partie de la guerre au jour d'aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre ces capacités. Le type de capacité, quant à ces capacités, je ne vais pas vous donner les détails. Mais nous avons décidé d'intégrer ce que nous appelons les cyber-effets nationaux. On parle également de cyber-offensifs, effets cyber-offensifs. Nous comptons les intégrer dans les missions et les opérations de l'OTAN. Et bien sûr, ces effets, ces, cyber, et ces cyber-effets ne seront mis en œuvre que conformément au droit international. Mais nous en avons besoin. Le soir. Merci Philippe Renier. Du soir, Bruxelles. Je reviens au traité FNI. Est-ce que vous pouvez nous faire part du message de l'Europe? L'Europe qui encourage la Russie et les États-Unis de maintenir leur dialogue pour sauvegarder ce traité. Ou est-ce que le traité est maintenant moribond? Est-ce qu'il convient de l'annuler, voire de le renégocier avec la Chine cette fois-ci? Les alliés de l'OTAN ont encouragé à maintes reprises la Russie à respecter le traité de façon transparente et vérifiable. Nous le faisons depuis des années. Il n'y a rien de nouveau ici. Le gouvernement Obama a soulevé le sujet. En 2015, pendant la présidence du président Obama, la question a été abordée, soulevée par les alliés de l'OTAN, par les États-Unis, vis-à-vis de la Russie. Nous avons appelé la Russie à répondre à nos préoccupations et à tenir ses engagements au titre du traité FNI. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Voilà le problème. Et selon notre analyse, la Russie viole le traité et les États-Unis ont déjà constaté ceci. Et la Russie, d'ailleurs, l'a avoué. Cet aveu du SSC-8, développement d'un nouveau système de missiles. Alors, le problème est où? Eh bien, c'est le comportement russe, qui est une chose qui dure depuis des années. Et l'accord FNI est essentiel, car il réduit le nombre d'armements, mais il a également aboli, c'est-à-dire remis à zéro, toute une catégorie d'armement. Et en 1987, je m'en souviens très clairement, ceci a vraiment eu un impact clair sur la politique de sécurité et les postures d'une génération d'hommes et de femmes politiques à l'époque. Le déploiement des SS-20 et la réponse de l'OTAN avec le déploiement des Pershing et des missiles de croisière. Nous ne voulons pas revenir à cette époque, nous ne voulons pas une nouvelle édition de la course aux armements et de la guerre froide. Et pour moi, les alliés ne vont pas déployer davantage, stationner davantage de missiles nucléaires en Europe en tant que riposte. Je ne prévois pas ce scénario, mais je vois qu'il est important d'analyser les incidences du nouveau comportement russe sur notre sécurité. Dmitry Kurko de l'Ukraine. Nous savons que certains officiers ukrainiens vont participer à l'exercice, mais l'Ukraine n'est pas parmi les pays partenaires nommés de l'exercice. Était-ce une décision politique de l'OTAN ou est-ce que l'Ukraine n'a pas fait de demande à cet effet? Deuxième question, volet. Les circonstances hybrides prévalant dans l'est de l'Ukraine, quel effet ont-elles eu sur la tenue de l'exercice?
La Suède et la Finlande sont les seuls partenaires de l'OTAN qui participeront à la partie live de l'exercice pour la partie qui se déroulera en Norvège. Plusieurs partenaires, mais je ne me souviens plus exactement du nombre, plusieurs partenaires vont participer à l'exercice de commandement sur table qui interviendra par la suite. Donc, la Suède et la Finlande participeront à l'exercice live, réel, et puis d'autres partenaires participeront à une autre partie de l'exercice. Et nous faisons des exercices avec l'Ukraine. Mais ils ne font pas partie de la partie live réelle de l'exercice. Alors, pour ce qui est du volet hybride, cela fait partie de cet exercice, à savoir, il est clair que nous devons être prêts à faire face à des cyberattaques, à de la désinformation, etc. Donc, tout ce qui est hybride et cyber fait désormais partie intégrante de toute opération militaire. Et par voie de conséquence, de tout exercice d'ampleur. Une dernière question. Merci. Craignez-vous que ce qui se passe s'agissant de l'INF puisse avoir un impact sur d'autres accords comme le START qui devrait être revu en 2021? Deuxième question, est-ce que la date du prochain Conseil OTAN-Russie est-elle donc cette date donc du 31 octobre est-elle déjà agréée avec les Russes? Est-ce que cela sera une opportunité de discuter du traité FNI? L'OTAN est favorable à la maîtrise des armements. Mais pour qu'elle soit efficace, pour qu'il soit efficace, les accords en la matière doivent être respectés par toutes les parties. Et comme je le disais, le problème s'agissant du traité FNI, c'est qu'il n'est respecté que par l'une des parties. Nous croyons dans la maîtrise des armements. Alors, l'une des questions dont nous discutons, dont il est question entre la Russie et les États-Unis, c'est d'une nouvelle décision pour pouvoir maintenir START après 2021. J'espère qu'ils trouveront une solution, parce que la maîtrise des armements, c'est ce qui permet d'éviter une nouvelle course aux armements, et c'est tout particulièrement important s'agissant d'armes nucléaires. Et c'est une question qui fait désormais l'objet de discussions entre la Russie et les États-Unis. Nous n'avons pas encore décidé d'une date pour la prochaine tenue d'un Conseil OTAN-Russie, mais comme vous le savez, il y a eu plusieurs réunions du Conseil au cours des deux dernières années, après une période sans réunion, donc sur la période 2014-2016. Depuis 2016, nous avons eu plusieurs réunions et nous discutons maintenant avec la Russie de la prochaine réunion de ce Conseil OTAN-Russie. Alors, quels sont les points qui seront discutés? Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela maintenant, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous nous sommes servis de ce Conseil, par exemple, pour aborder la question de la transparence, de la posture de force. Donc, nous avons présenté l'exercice Trident Juncture à la Russie. Eux nous ont présenté Vostok. Et pour l'OTAN, il est très important de faire preuve de transparence, d'être prévisible. Nous leur avons donc présenté des choses au Conseil OTAN-Russie. Nous avons invité la Russie à venir observer l'exercice conformément aux documents de Vienne de l'OSCE et nous les invitons à venir sur place dans le Nord et pour autant qu'ils se comportent de manière professionnelle et qu'ils évitent toute situation dangereuse, tout comportement dangereux. Je ne vois pas du tout pourquoi ce serait un problème qu'ils assistent en tant qu'observateurs à cet exercice Trident Juncture. Je vous remercie. Cette conférence de presse est terminée et j'espère que nous vous retrouverons en Norvège à l'occasion de cet exercice Trident Juncture. Merci.